Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B. En compagnie de Roger, he's back.
Oui, tout à fait.
Tout juste sorti du garage.
Ouais, la semaine dernière, j'étais en revision, on va dire.
Ouais.
Vous avez vu, je suis venu avec de nouveaux pneumatiques qui ne ressemblent à rien du tout. Mon côté rock va en souffrir, mais je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus marcher. Donc c'était marcher ou, porter des godasses de vieux. Il faut choisir. Voilà.
Bien content de vous revoir pour cette émission spéciale.
Ouais, puisque nous allons recevoir, Eugénie, Noam et Léo Victor pour la sortie d'une toute nouvelle revue qui s'appelle Under Pressure, avec une l'accent revue, s'il vous plaît.
Une revue collective.
Une revue collective.
Et militante d'une certaine manière.
Ouais, d'une trentaine de...
D'intervenantes et d'intervenants.
Des jeunes, ça, on va pas se mentir, comment dirais-je, mais c'est bien justement et ça nous fait rudement plaisir de voir que le papier n'est pas mort, il bouge encore et il bouge encore par la grâce de l'énergie de ces jeunes gens et c'est très bien. Voilà, vous trouverez d'ailleurs également sur le site de notre émission tous les liens pour pouvoir vous enquire de cette excellente revue.
Oui, et il paraît qu'elle part très bien d'ailleurs cette revue, donc
il
faudra vous dépêcher.
Déjà plus beaucoup. On va vite commencer parce que j'ai bien peur qu'on en ait beaucoup de choses à dire avec nos intervenantes et intervenants. De ce fait, il faudrait quand même pas qu'on leur coupe la parole. Une nouvelle vraiment pas drôle. Vous avez déjà évoqué les disparitions de Krasinski et Glenn Baxter la semaine dernière, décidément.
Ouais.
Hein, Glenn Baxter, j'avais pu rencontrer il y a très très longtemps lors d'un étonnant voyageur à Saint-Malo. C'était même pas avec Quai des Bus, c'était avec Étonnant Voyageur. Et ce monsieur, Glenn Baxter, un humoriste anglais, auteur de bande... pas vraiment de la bande dessinée.
Illustrateur, je dirais.
Ouais, illustrateur, dessinateur de presse surréaliste, on va dire, dont l'humour était la marque de fabrique. Et qui... alors lui, c'était pas le Berry, c'était les Deux-Sèvres. Allez savoir pourquoi, le Poitou. Voilà, il y a des gens comme ça, faut être tordu un peu, faut aimer l'humour bizarre. C'était le cas de monsieur Glenn Baxter, un monsieur charmant qui, de ce fait, grâce à ses séjours fréquents et répétés dans la douce campagne de Chèvrienne, eh bien, il en avait acquis quelques rudiments de français qui m'avaient permis de réaliser cette interview à l'époque, un monsieur charmant et sympathique. Également la disparition de monsieur Krasinski, dont vous avez déjà parlé la semaine dernière. Moi, je me rappelle d'un bestiole, bestiole paru chez Dupuis, excellent, deux tomes fantastiques, un ouvrage hyper drôle en compagnie de Maya Mazorette au scénario, et puis des ouvrages plus, on va dire, sérieux, sur la religion, etc., à travers la métaphore avec un espèce de grand singe. Et tout dernièrement, j'avais chroniqué dans une série d'ouvrages historiques...
C'était Napoléon.
Napoléon, tout à fait, de M. Krasinski, qui avait en plus cette capacité de dessiner... on pouvait ne pas reconnaître son trait d'un album à un autre, quoi. C'était... et peintre aussi, hein. Il a, sur son fil Instagram, si vous allez dessus, j'espère qu'il n'a pas été supprimé tout de suite, vous pourrez voir certaines peintures, des peintures de ville, notamment, il aimait bien peindre Paris, disparu à 53 ans, Seigneur Jésus, c'est vraiment tôt. Et voilà que cette semaine, c'est monsieur Jacques Armand Cardon qui disparaît. Ça, il faut être un lecteur du Canard Enchaîné, surtout une vieille lectrice ou un vieux lecteur du Canard Enchaîné, pour avoir découvert ce monsieur qui avait dessiné dans L'Enragé, avec Ciné Hebdo, etc., qui est né en 1936 et qui avait un trait très très particulier basé sur la géométrie, on va dire. Il y avait toujours des espèces de lignes de fuite. Ces personnages avaient rarement des cheveux comme lui d'ailleurs, il n'en avait plus beaucoup. Quoi qu'il en avait, d'après la photo que je vois. Il en avait. Et des personnages chauves souvent et confrontés à la dictature, confrontés à l'arbitraire, confrontés au monde du travail que M. Cardon connaissait bien parce qu'il était rentré en apprentissage à 14 ans, ce monsieur, avant de devenir dessinateur de presse.
Il avait été ouvrier à l'Arsenal de Lorient, j'avais vu.
Tout à fait, tout à fait. Et il a publié pas mal de livres qui sont trouvibles, si vous les commandez, même dans une librairie dont Terra le nom, je pense qu'il serait capable de vous trouver quelques ouvrages de M. Cardon. Alors, il n'y aura peut-être pas la jaquette, il manquera peut-être le petit gadget de l'intérieur, mais vous aurez au moins le livre.
Un dessin en hachure, je me souviens. Ouais, très particulier.
Vraiment un très 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 original. Hein. On est vraiment, il y avait
peu de texte aussi.
Ouais. Le dessin de Cardon, on peut pas. Il y a Cardon et il y a les autres, on va dire. Je serais presque tenté de dire. Vraiment un ouvrage, un monsieur, avec un style tout à fait original. Ben voilà, c'est fini pour Monsieur Cardon. Il est parti rejoindre tous ses collègues, notamment Monsieur Ciné, comme je disais tout à l'heure, pour qui il avait travaillé. Et vous me faites signe qu'on n'a pas beaucoup de temps. Annoncer quand même, j'en reviendrai là-dessus, hein, puisque là je ne vais pas rentrer dans les détails, la sortie de Ratige Poche, naturellement. Vous savez quand même qu'on en est arrivé à 10 exemplaires vendus par numéro.
Mon Dieu !
Chez Tibulle, chez la librairie dont nous tirons le nom, pardon. Comment dirais-je ? 10 exemplaires vendus par numéro, ce qui est quand même pas mal. Et j'invite toutes les librairies dont nous tirons le nom de Rennes et d'ailleurs à acheter des stocks de Ratige Poche, tout nouvel numéro qui fait la paire belle à la politique, je dirais, puisqu'on voit arriver les affreux du RFN pour le Rassemblement Félin National. Un groupe de un groupe de limités du bulbe, le RFN, le Rassemblement Félin National, qui n'a rien à envier à d'autres bas du bulbe, malheureusement trop connus dans notre pays.
Impeccable. On s'écoute un petit morceau, ça vient d'Irlande, elle vient d'Irlande, Kate Tempest, Statue in the Square, et on retrouve donc l'équipe de Under Pressure via Zoom. Oh là là, on se lance dans des expériences. Mais d'abord, un morceau.
This person that's passing me by has never seen one like me before. We endure it, keep reaching for it, knee deep we keep pouring life force in a formless void. We're too gorgeous to dwarf the whole street when we walk. Are you transported? I cherish the ones who support us. Fear takes from us, but love restores us. You are not the sum of the things you do wrong in the eyes of someone who does not understand you. It's not a disorder or a dysfunction, disgusting in the way they discuss us. But just 'cause a person's not decent to me don't mean they're not decent to someone. The norm is not normal, it's a construction designed to stifle the inner life and increase production. They never wanted people like me round here, but when I'm dead they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead they'll put my statue in the square. Yeah, they'll turn up anywhere rare, and when we're dead they'll put our statues in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere. Spent my life trying to do things your way, normal didn't feel right. Trapped in a shrinking hallway till it got too tight. Deep breath, fresh air when I broke the surface. Yes, we've all lost lovers, what's sad is a lost purpose. Reclaim it, reframe it, rename it, something more fitting. Contain it, champagne it, complaining never did nothing but hitting the ground. Running's a start, hold your position. Tape it up, tuck it and love it beyond condition. Watching the city surrender to rain, I remember to live is to change. I don't pray for the end of my pain, I pray for the strength to weather it. Pause on the brink of a gaping precipice. Hesitant, derelict, slow from the sedative. Terrified people never stop asking where the treasure is. I'm like, everything's relative, so don't be surprised when they shield their eyes. What they fear is a reflection of their own minds. They reveal themselves in their dead headlines. It's fine, we don't need permission to shine. They never wanted people like me round here, but when I'm dead they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead they'll put my statue in the square. Yeah, they'll turn up anywhere rare, and when we're dead they'll put our statues in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere.
Eh bien voilà. Nous sommes ravis aujourd'hui. Allez, on va dire que comment ça faisait longtemps que des voix se faisaient entendre chez Plume et Pinceau. C'est un peu une émission de vieux crabe, ratiche-poche et compagnie, du vieux Fripounet, Perlin Pimpin, etc. Il était temps que nous fassions taire la rumeur. Aussi grâce à Monsieur Laurent Houssin qui m'a dit, ah, mais moi je connais des jeunes qui lancent une revue qui s'appelle Under Pressure. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. À peu près, oui, Under Pressure.
C'est ça.
Et qui m'a dit, ce monsieur Laurent Houssin, que nous connaissons bien par ailleurs, qui est dessinateur de bande dessinée, nous avons eu l'occasion de rencontrer déjà plusieurs fois Plume et Pinceau. Et comme c'est un monsieur qui mesure près de 2,30 m, pèse 180 kg de muscles, on ne refuse jamais rien à monsieur Laurent Houssin aussi. C'est avec grand plaisir non fin que nous avons contacté d'abord Eugénie. Bonjour. Et vous n'êtes pas seul, Eugénie, pour nous présenter cette toute nouvelle revue Under Pressure. Je rappelle, il y a également votre compagnie, Noam, bonjour.
Bonjour.
Et Léo Victor, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, bonjour.
Bonjour. Eh bien voilà, donc nous on se connaît, enfin nous on se présente, c'est Plume et Pinceau. Est-ce que vous écoutiez la radio de la vieille bande dessinée de 7 à 77 ans, surtout de 60 à 77 ?
Par moment.
Ah, c'est bien, c'est déjà pas mal. Alors là, maintenant, vous êtes loin, mais vous savez que vous pouvez nous écouter par Internet. D'ailleurs, si vous voulez réécouter votre interview, il faudra que vous alliez sur Internet, puisque nous sommes également diffusés sur Internet.
On leur enverra le lien, ouais.
On vous enverra le lien de tout ça.
Alors, preuve qu'on fait un coup de jeune, d'ailleurs, c'est qu'on utilise un canal que l'on ne maîtrise pas trop, en fait. Et c'est une grande première. Merci à vous de tester avec nous. On utilise Zoom. Alors, ça a beaucoup fait rire dans le monde de l'entreprise parce que c'est apparemment un truc très connu. Mais pour nous, c'est une grande première.
Oui, et puis moi, j'en étais encore à comment ça s'appelait, votre truc ?
Skype.
Skype, il paraît que ça marche plus, Skype. Skip.
C'est comme le Minitel, Roger. Il y a des trucs qui disparaissent.
On m'a dit que Skype, ça a bien fait rire Yann de la radio, permanent dans la radio, qui dit Skype, mais ça fait longtemps que ça n'existe plus, comme le cadeau bonus, pareil, tout ça c'est fini, et c'est bien dommage. Alors, on va vous demander de vous présenter tous les trois, puisque, alors vous n'êtes pas seul, je pense, au sein de cette revue, vous êtes nombreuses et nombreux, mais en tout cas aujourd'hui vous êtes trois avec nous. Alors nous avons qui avec nous aujourd'hui ?
Alors vous avez Noam, c'est moi.
Bonjour.
Alors, présentez-vous un petit peu Noam, comment, d'où venez-vous, qui êtes-vous, quelle est votre couleur préférée, bref, dites-nous tout.
Alors moi je viens de Montreuil, j'ai grandi à Montreuil, j'ai fait de la danse, je suis danseuse à la base on va dire, et puis ensuite je suis rentrée à l'école Estienne en création éditoriale, où j'ai commencé à faire du livre d'artiste, et ensuite, à l'issue de cette école, j'ai rencontré Eugénie.
D'accord. Et Eugénie, vous êtes aussi alors à l'école Estienne ?
Bah moi, j'ai fait aussi l'école Estienne. J'étais en imagination. Et maintenant, moi, je fais de la bande dessinée.
D'accord. Et Léo Victor ?
Ouais. Bah moi, je n'ai pas fait l'école Estienne, moi. Mais ma couleur préférée, c'est le orange.
C'est une belle couleur, vous avez raison.
Eh ben ouais, je suis d'accord. Et non, moi je suis musicien, j'ai fait le conservatoire, donc rien à voir.
D'accord.
Donc voilà, du piano, de la composition. Et je les ai rencontrés pendant un événement et elles m'ont parlé de la revue. Et voilà, j'ai voulu tout de suite y participer.
D'accord.
Malgré le fait que je ne sois pas... que je sois juste seulement musicien.
Seulement musicien, vous faites des choses que nous sommes incapables de faire de notre côté.
Alors l'école Estienne, je voudrais revenir un petit peu, elle est connue cette école-là, l'école Estienne. Vous pouvez nous en parler, Eugénie ou Noam ?
Ouais, c'est l'école des métiers du livre à Paris, c'est une école publique qui existe depuis très longtemps. Ouais. Et dedans, bah, du coup, il y a plein de spécialités très spécifiques autour du livre. Il y a plusieurs sections, mais c'est pas uniquement le livre, il y a aussi une section animation... graphisme, communication, mais nous on était en livre. Ouais. Eugénie en illustration, image imprimée.
Imagination.
Et moi j'étais en création éditoriale.
D'accord. C'est dur d'y rentrer en fait l'école Estienne ou quoi ? C'est exigeant ? J'en sais rien.
C'est sur dossier, ça dépend les sections, mais ils prennent 10 personnes par classe à peu près.
10 pour. Ah ouais, 10, pas ouais. Plus. Ah oui, c'est des classes intimistes. Hein.
Ouais, ouais, non, c'est pas énorme. Donc, la classe est la même pendant 3 ans. Donc,
D'accord.
C'est mieux de s'entendre avec tout le monde.
Ah ouais, c'est clair.
Donc, toutes les deux, vous avez fait 3 ans de formation chez Estienne, alors?
Ouais, exactement.
Ok. Enfin,
moi, 2, parce que j'ai fait une autre école avant et je suis rentrée en 2e année.
Ok,
ok.
Alors,
on ne s'est pas rencontrés à l'école, nous, directement.
Ah.
C'est juste après.
D'accord.
En fait, on a postulé à une bourse d'une fondation qui s'appelle la Fondation Culture et Diversité, qui propose des accompagnements pour les jeunes qui sont... pour les insérer en fait dans les milieux de la culture et dans les écoles d'art. Et donc ils ont un programme qui s'appelle Voyager pour apprendre les métiers d'art, dans lequel ils proposent une bourse pour faire des stages en fait à l'étranger dans les métiers d'art. Donc ça peut être du textile, de l'impression, il faut que ce soit juste un métier d'art. Et en fait on a toutes les deux postulé à cette bourse
qu'on a eu, et en fait on s'est retrouvés à partir toutes les deux au Mexique dans un atelier de gravure. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Ensemble.
Vous êtes rencontrés dans l'avion.
Voilà, c'est ça. On s'est rencontrés dans l'avion. En fait, on a commencé à parler dans l'avion, sachant qu'on allait partager la même chambre, le même lit, voire même parfois. et le même lieu de travail pendant 5 mois.
Et du coup, vous avez découvert que vous aviez les mêmes envies, parce que j'imagine que c'est ce voyage au Mexique et puis cette rencontre et le fait de se côtoyer qui a peut-être amené à l'origine du projet Under Pressure.
Exactement. Bah, en fait, Noam fait du livre d'artiste, moi je fais de la bande dessinée. Et on arrivait avec des envies très spécifiques dans cet atelier de ce qu'on voulait faire. Et en se rencontrant, on a toutes les deux voulu créer ensemble. Et mélanger ce qu'on connaissait et ce qu'on savait. Et ça nous a amené à faire 2 livres d'artistes sur place
qui mêlent de la bande dessinée, des savoir-faire en fait, locaux aussi qu'on a appris sur place, dû à des rencontres qu'on a pu faire.
Il y a 10 de gravures par livre.
Ouais.
Et donc on a vraiment croisé nos 2 pratiques. Et c'est un peu cet échange-là qui a fait qu'en revenant en France, on s'est demandé, bon bah maintenant, est-ce qu'on demande des masters? Est-ce qu'on repostule à des écoles? Est-ce qu'on se lance en tant qu'artiste ou bien en tant qu'autrice, ou j'en sais rien. Et en fait, personnellement, du coup, moi, je me suis rendu compte que j'avais envie de continuer à apprendre, mais plutôt de la théorie, puisque la pratique avait été vachement pratiquée, en fait, à Estienne. Et puis, du coup, on s'est dit toutes les deux, en revenant, qu'on avait envie de monter un projet collectif et qu'on avait envie de se faire rencontrer nos cercles aussi.
Ouais, on avait envie d'appliquer à un cercle beaucoup plus large ce qu'on avait vécu à 2.
Ouais. Et puis on est aussi très sensible à ce qui se passe dans le monde actuel, donc politiquement, environnementalement parlant, et on avait envie d'agir, et on trouvait toutes les deux pas trop de manière d'agir à notre échelle, je crois. Et puis en fait on a commencé à en parler, et au début c'était un peu plus des idées et des envies qu'une réalité, et plus on en parlait, plus c'est devenu une réalité. Et plus les gens avec qui on en discutait se sont impliqués, et donc aujourd'hui c'est vraiment devenu un projet collectif. Donc on est un noyau de 5, disons, qui gérons tout le côté administratif, légal,
truc un peu chiant, quoi.
Voilà, les trucs un peu chiants, mais
coordination, tout ça.
Mais il y a quand même 30 artistes en tout qui participent, quoi.
J'avais remarqué, effectivement, parce que j'ai regardé un petit peu votre Instagram et tout ça, effectivement, nous, à Plume et Pinceau, on est très branchés sur l'image et la bande dessinée, mais en fait, c'est un projet qui se veut vraiment ouvert sur plein d'arts, en fait.
Ouais. L'idée aussi, c'est... Enfin, moi, de l'expérience que j'ai eue aussi en arrivant après, une fois qu'elles avaient eu l'idée d'offrir ça aux autres et aux autres artistes, d'offrir ce lieu-là et de faire vivre ce qu'elles ont vécu, elles, dans ce voyage au Mexique, c'est vraiment de créer un espace pour être, justement, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir créer et être ensemble, quoi qu'on soit et d'où qu'on vienne, en tant que personne qui veut s'exprimer. La seule condition, c'est d'avoir envie de faire des choses, quel que soit le média, en fait.
Alors, puisque vous parlez de médias, Léo Victor, ce qui me surprend un peu, c'est qu'il, quelque part, ça me fait plaisir, mais ce qui me surprend, c'est qu'il y a encore des jeunes de votre âge qui aient envie de faire vivre l'expression écrite, je veux dire, par le papier, quoi, par le biais du papier, et pas simplement un espèce d'objet numérique, une revue numérique. Pourquoi ? Parce que du coup, forcément, quand on veut faire du papier, c'est plus cher, c'est plus chiant, c'est plus contraignant, même si nous, chez Erwan et moi, ça nous parle. Il n'empêche qu'au demeurant, pourquoi vous n'avez pas choisi quelque chose qui peut paraître plus léger à notre époque, c'est-à-dire
le numérique, quoi.
Le numérique, quoi.
Bah, je vais commencer à répondre, mais je pense que je vais pas répondre entièrement. Enfin, je vais vous laisser répondre après. Mais en tout cas, moi, de mon expérience, qui suis un peu néophyte dans dans le domaine du papier, justement, c'était aussi ça vient aussi d'un besoin, parce que bah justement on est baigné complètement, les petits oiseaux, pardon, on est baigné complètement dans l'univers informatique, dans la création. Moi, en tant que musicien, bah voilà, je fais énormément d'informatique musicale, donc je suis devant mon ordinateur. Et puis c'est-à-dire que on baigne dedans, nous, complètement. C'est-à-dire qu'on a grandi avec Internet, on a grandi avec cette chose qui est pas palpable, dans laquelle on se perd complètement et qui est trop vaste et qui est vraiment presque
qui est vertigineuse.
Et donc il y a vraiment un besoin aussi de retourner à du
concret, en fait, du palpable.
Et je trouve que le papier, c'est vraiment quelque chose d'assez... ça symbolise vraiment ça.
Puis nous, on voit la revue comme un outil de transmission aussi. La trace peut rester quand on mélange des arts. En fait, on crée des événements en parallèle, des résidences aussi. Et quand on est danseur ou musicien, ça se joue dans la rencontre. Et c'est la rencontre entre le spectateur et l'artiste qui fait qu'il y a une œuvre. Et du coup, comment on fait pour... laisser une trace dans un objet.
Et puis on vient, enfin, aussi honnêtement, je pense que Eugénie et moi, on partage un peu cette passion de l'objet livre, en fait.
Complètement.
Ouais. Et donc, quand on a eu l'idée du projet, c'est vrai que utiliser le médium papier et d'une imposition avec une reliure pour transmettre, c'est ce qui nous est venu assez naturellement parce qu'on s'est rencontrés aussi autour de cette passion quand même.
Oui, par vos parcours.
Comme dit Léo, on vit au 21e siècle, donc aujourd'hui, il y a mille et une manières de transmettre une matière numérique par le papier. Et du coup, pour les gens qui font, enfin pour les performeuses en tout cas, de la résidence ou des événements, il est possible par exemple de mettre un QR code en fait sur la revue qui vont renvoyer les lectrices vers des plateformes pour visionner éventuellement de la musique, des spectacles.
Oui, on reste connecté complètement, mais c'est bien d'avoir un objet, quoi. Ça fait un point d'ancrage, sinon on se noierait un peu dans...
Oui, et puis je partage votre idée de ça rend les choses finalement très concrètes. On voit, on touche, on sent l'encre, etc. Enfin, il y a comme on sort du virtuel pour venir dans le monde réel, et je trouve ça assez chouette. Puis bon, ça nous parle. Mon camarade en face de moi est un vieux du fanzina, donc ça lui parle énormément.
Oui, puis ça me fait énormément plaisir, parce qu'à l'heure de l'IA, comme ils disent maintenant, vous voyez bien comment même Spirou a publié un dernier de ses derniers numéros sous forme de gag, soi-disant fabriqué par IA, ce qui n'était pas tout à fait le cas. C'était un petit peu justement un pavé dans la mare du 9e art pour soulever un peu le problème de l'IA. On va faire une petite pause parce que Erwan est un peu le maître de l'horloge, pour une pause musicale. Alors on vous a demandé, puisque c'est vous, Léo Victor, peut-être, qui allait nous envoyer de la zik.
Alors, qui nous propose un premier morceau? Présentez-nous ça. Quelle est votre sélection musicale?
On a plusieurs morceaux qu'on a sélectionnés. On voulait vous proposer un morceau qu'on écoutait beaucoup au Mexique avec Noam, qui s'appelle Caligno.
Exactement.
Ok, très bien. Eh bien, on va s'écouter ça et puis on va partir au Mexique alors. Thank you.
llaman Acerrín.
¿Por qué, Ángel Aníbal?
Porque soy lo último que botan de la cantina.
Bien voilà, après cet excellent morceau qui nous réchauffe un petit peu, comment...
Ça m'a donné envie de boire de la tequila.
Non, moi non, parce que j'ai un ami alcoolique et c'est un drame, et comment... Et je le paye assez cher. Pas aujourd'hui, aujourd'hui, hier, j'étais sage parce que j'étais seul, voilà.
Oh, et donc, c'est bien.
Ouais, ouais, c'est bien. Et du coup, comme, la tequila, je regrette pas. Et
Tequila, paf.
Ah, j'avais envie de vous poser une question là, qui, pendant qu'on écoutait ce morceau là. Quand, donc vous êtes une trentaine, 31 je vois, c'est 31 ou 30, une trentaine vous avez dit?
On est 31, ouais, environ.
Ouais, j'ai vu ça sur, sur vos documents que vous nous avez envoyés. Comment vous avez recruté, parce que 30 c'est quand même pas mal, une trentaine de personnes.
Bah, en fait, comme l'idée de la revue à la base était avec Eugénie de aussi se faire rencontrer nos cercles. On a la chance d'être entouré par des gens qui font mille et une choses. Mmh. Danseurs, musiciens, écrivains, écrivaines, photographes, dessinateurs, plasticiens, performeuses. Il y a de tout en fait dans nos cercles. Mmh. Et donc assez rapidement, quand on a commencé à parler de la revue, les gens nous ont dit « Ah, mais moi je veux faire quelque chose ». J'ai même une amie qui est en études de sciences politiques qui m'a dit « Ah, mais moi j'adorerais avoir un espace où je pourrais essayer quelque chose dans le dessin ». Et en fait, on a trouvé ça assez naturellement, quoi. Les gens se sont...
Tout le monde cherchait un espace d'expression et de liberté, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais
okay.
Pour le deuxième numéro, c'est aussi de sortir un peu de nos cercles. Et donc, on va publier un appel d'offres pour que les gens de partout et d'ailleurs, qui ne sont pas forcément dans notre entourage, puissent participer au projet.
D'accord, mais... On peut vraiment venir avec donc pour s'exprimer sous n'importe quelle forme et sur n'importe quel sujet, c'est vraiment hyper open bar.
C'est pas n'importe quel sujet, dans la mesure où chaque numéro a une thématique.
D'accord.
Après, la forme de réappropriation est complètement libre, c'est carte blanche.
Ok. Alors du coup, comment on fixe ce qui va être le thème en fédérateur ou la ligne directrice?
Pour le premier numéro, on s'est un peu calé sur la fête du livre de Becherel.
Ouais. Okay.
Parce qu'on a récupéré la très grande maison de mes parents pendant 3 semaines. On a fait une résidence sur place.
Ah, chouette.
Où tout le monde s'est réuni, il y a une vingtaine de personnes qui sont passées, on a créé tous ensemble. Et on s'est dit que porter la thématique qui viendrait pour la fête du livre, ça serait aussi l'occasion de revenir ensuite pour présenter ce qui a concrètement été fait.
Mmh.
Puis la maison du livre nous avait pas mal soutenus à ce moment-là pour nous donner des espaces. Mmh. Du coup, c'était un petit clin d'œil pour nous donner le cadre du départ.
C'était pas sur le vrai et le faux, la thématique?
Non, c'est tout est vrai, tout est faux.
Ouais, c'est sûr que c'est une thématique qui peut inspirer de nos jours. Notamment, je repense encore au numérique, mais bon.
En fait, c'est suffisamment large pour un premier numéro pour qu'on puisse laisser aussi le temps aux artistes qui nous entourent de voir comment est-ce qu'eux, ils vont mettre les choses en place.
Alors, Under Pressure, je suis pas très doué en anglais, mais moi je le traduis par sous pression.
Moi ça m'évoque David Bowie.
Ouais, moi ça me faisait penser au vieux titre des sélecteurs Too Much Pressure. Under Pressure, est-ce qu'il faut le voir effectivement comme un support pour exprimer ce que l'on n'entend plus, parce que finalement, bien que les possibilités de s'exprimer se sont multipliées, on parlait de l'informatique tout à l'heure. Il semblerait quand même qu'on a l'impression d'entendre toujours les mêmes, de voir toujours les mêmes, et qu'au final, vous qui êtes jeune, vous n'êtes quelque part pas représenté, on ne vous écoute pas. Est-ce que c'est né de ce constat, cette revue?
En grande partie, en fait, c'est aussi né d'une sortie d'école, où on était dans des institutions qui étaient très précises, et en sortant, on s'est un peu retrouvé livré à nous-mêmes, sans savoir réellement où aller et en pensant qu'on devait réussir par soi-même, pour soi-même, dans nos artères respectifs. Et en fait, avec cette pression-là qui montait, et plus on discute autour de nous, plus on se rend compte que...
Tout le monde,
tout le monde la ressent, quoi, cette, ouais, cette pression.
On pense qu'on est seul à vivre sous cette pression très carriériste, mmh. Concurrentielle, donc, que ce soit dans le milieu de l'art ou autre. Mmh. Et en fait, quand on en parle, on est tous à peu près au même âge, voire beaucoup plus large.
C'est très important de faire aussi.
Et c'est ça qui a fait que ça a été très simple de trouver, je pense, 30 personnes pour participer, c'est que à l'évocation-là de ce sujet-là, enfin, du fait d'être sous pression quand on est jeune et qu'on commence et qu'on essaie de s'exprimer, c'est les gens réagissent tout de suite. Enfin, tous les gens qui ont participé, ils ont dès qu'ils ont entendu ça, ils sont reconnus dedans et ils ont voulu tout de suite y participer, quoi. Mmh. C'est vraiment ça qui nous réunit.
Ouais. Que le nom complet qu'on a donné, c'est Under Pressure Control Z. Ça veut dire qu'on peut revenir en arrière et qu'on peut reset.
Et c'est un écho aussi au fait qu'on est une génération qui a grandi avec l'ère numérique.
Ouais.
Et avec le Control Z, on peut revenir en arrière, on peut se réinventer.
En fait, vous l'évoquiez, et j'ai l'impression que vous le confirmez, ça se veut aussi quelque part une revue avec une dimension militante, en fait.
Exactement.
Et justement, quels sont les combats ou les causes qui vous fédèrent?
En fait, ils sont multiples, hein. C'est assez large, mais je pense que de toute façon, il y a, d'une manière un peu évidente pour nous, en tout cas, je crois, il y a un combat qui est générationnel, qui est que, je vais dire des choses un peu déjà dites, mais. On nous laisse le monde. Nous, on n'a pas décidé dans quel monde on arrive. Mmh. On nous a laissé ça, les générations précédentes. Et du coup, le combat, c'est comment on fait pour
le gérer.
Ça. Mmh. Qu'est-ce qu'on en fait de ce monde-là ?
Mmh. On porte tous des héritages.
Ouais.
Oui, bien sûr.
Des traumatismes, qu'ils soient passés ou présents. Mmh. Et. Il y a la question du genre, de l'environnement, des combats politiques,
sociaux,
la guerre.
Bah ouais. C'est aussi ça, under pressure, sous pression. C'est-à-dire qu'on est sous pression de ça, on arrive dans le monde concurrentiel, capitaliste. Mmh. On nous dit qu'il faut être efficace, qu'il faut vendre pour vivre.
C'est la performance, la production.
Et nous, on veut réinventer, quoi. On veut trouver un moyen de faire autrement.
Et ensemble. Donc, il y avait tout dans notre moyen d'action, l'idée d'agir collectivement, de se réunir. Donc, c'est pour ça que les résidences fait partie intégrante de la revue. Mmh. Parce qu'en fait, dans cette résidence, il n'y a pas de revue. Et qu'on met un point d'honneur à réunir une vingtaine de personnes dans la même maison pour vivre ensemble pendant 3 semaines, parce que c'est aussi en fait apprendre à vivre avec d'autres. Et au final, les photographes demandent de l'aide aux musiciens, les danseuses demandent de l'aide aux écrivains, les dessinateurs.
Créer des synergies.
Des synergies qui sont nées, et ça, c'est ce qui fait que c'est génial. Et que...
Ouais. Mmh. En fait, moi, je le vis aussi un peu. Je le vis vraiment comme un refuge, quoi, comme quelque chose où on a besoin de ça. On le fait pas assez, je pense. On a besoin d'être ensemble et de se réunir parmi ceux qui veulent que les choses changent, qui veulent vivre autrement. Et on veut pas accepter la manière de vivre à laquelle on s'attend globalement dans un monde qui est complètement en crise et avec une crise climatique, sociale et tout. Et donc on a aussi besoin de se créer un espace nouveau et un espace de possibilités. C'est presque, je vais dire un gros mot là, mais c'est presque révolutionnaire comme fait. Ça a été fait, bien sûr, par bien d'autres générations, mais nous on a besoin de ça, quoi. On a besoin de se créer cet espace-là pour prendre du recul, se réunir et décider de ce qu'on va faire ensuite.
Puis on est face aussi à une surmédiatisation des violences qui nous entourent.
Ouais.
Et donc bien sûr, c'est un statut entre guillemets privilégié quand même dans nos pays. Entendre et voir ces choses-là sans forcément les subir. Mais je crois que la pression médiatique fait aussi que pour les jeunes de notre génération, on est très facilement culpabilisé et que c'est très difficile de trouver où se placer et comment agir sans crouler sous cette culpabilisation. Et je trouve, en tout cas je parle pour moi, que Under Pressure, c'est une manière d'agir aussi.
Ouais, ouais. Et puis, il faut dire que nous sommes dans une époque où il y a enfin, une espèce de guerre culturelle aussi assez intense, quoi, qui se les joue à plein de niveaux.
Exactement, ouais. Il y a presque un... Enfin, c'est un outil de combat, quoi. C'est sûr qu'il faut la mener, la guerre culturelle. Et elle a été abandonnée par beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'on se sent esselé. C'est que il n'y a pas... à notre époque... il n'y a pas de lieu ou d'espace culturel, de vrai outil pour mener la guerre culturelle, justement. Et nous, c'est ça qu'on veut créer aussi.
Très bien.
On veut créer notre espace de prise de parole aussi pour avoir la liberté de dire tout ce qu'on voulait.
Voilà.
C'est pour ça que Under Pressure, ce n'est pas juste une revue. Enfin, en tout cas, quand on en discute en groupe, on le perçoit plus comme
un mouvement, en fait,
un mouvement, une maison d'édition, mais aussi un label.
Un collectif,
on a vraiment... en fait, sur les prochains numéros, on envisage, par exemple, l'idée de faire un album. Et donc là, en fait, Under Pressure prendrait plutôt un statut de label.
Édition de label.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est ça, en fait, hein, c'est ce que vous avez dit, c'est mener la guerre culturelle.
Ouais. Mais on l'a vu monter aussi, parce que ça fait un moment qu'on fait cette émission autour de la bande dessinée, et même dans c'était un art, on va dire, qui était un peu sur le côté, qui n'était pas en première ligne de front, et même maintenant, dans la bande dessinée, on a vu arriver le conflit, quoi. Il se répand vraiment dans toutes les expressions artistiques et dans tous les médias.
Est-ce qu'on peut parler d'un conflit générationnel, c'est-à-dire que sous prétexte que nous, les anciens, vous aurez laissé que des cailloux et que vous n'avez pas d'affection particulière pour les cailloux, même en sauce, et que sous prétexte qu'on aurait tout pourrite, vous nous en voudriez un petit peu.
Bah, moi, je pense que il y a quelque chose de générationnel, évidemment. Nous, on se réunit sur la base de ça, du générationnel, mais pas que. Et je pense que ce serait trop facile de dire que ça n'est que ça. Parce qu'évidemment qu'on a des alliés qui ne sont pas de notre génération et qu'il y a des gens de notre génération qui ne sont pas nos alliés. Et ce serait un peu dépolitisé que de simplement en faire une question de génération, mais c'est aussi ça. Voilà.
Et puis, en fait, le concept aussi de travailler en collectif, c'est qu'on croit énormément à l'échange et à la transmission. Je crois que ce serait quand même très limitant de partir du principe que pour une question d'âge et de génération, on va refuser... d'échanger avec certaines personnes.
Ah bah merci, ça nous arrange.
C'est vraiment que vous posez cette question parce que c'est ce à quoi on réfléchit pour le deuxième numéro, c'est de parler de transmission et de se mettre justement en lien tous ceux de notre âge avec une autre génération. Alors qu'est-ce qu'on a à dire aussi de ce monde.
Très bien.
On s'écoute un petit Dix.
Ouais, alors deuxième morceau que vous nous proposez, quelle est votre programmation musicale, jeunes gens?
Du coup, moi pour la revue, j'ai composé une musique.
Très bien.
Voilà, et peut-être qu'on peut l'écouter quand tu en parles, ou alors.
Faisons ça, ça sera très bien.
Ça va être l'expérience est mieux sans avoir été prévenu au préalable.
D'accord. Eh bien, on s'écoute ça alors.
Je me souviendrai toujours de celui qui m'a dit « Je suis là, il n'y a rien. » Et puis tout d'un coup, tu m'écoutes. Alors je commence à parler. Alors j'agis. Et je lutte activement pour ta passivité. Écoute. Je suis celui qui arrêtera le temps. La réalité. La réalité. Elle est trop lourde. Trop froide. Trop dure. Refusons-la. Refusons-la. Écoute. Écoute tout ce que tu n'entends pas. Tu ouvres les yeux. Peut-être que tu n'y étais pas. Mais tu es là, dans ton lit, tu ne te réveilleras jamais ailleurs que là où tu t'es endormi. Mais cette fois peut-être. J'ai coupé le temps pour qu'il s'arrête enfin. Endors-toi éternellement jusqu'à demain. Puis réveille-toi dans le son. Comme celui qui se lève quand tout le monde dort pour manger ce qu'il trouvera dans le frigo. Du pain, du beurre, un yaourt peut-être. C'est là que tu vois le spectre qui hante le monde. Celui des sons qui n'existent pas. Il parle. Remplace l'argile par l'argile. La forme par la forme. La parole par le vent. Et les mots par l'eau salée. Évitons la dureté du sol et remplaçons-la par des vapeurs chaudes. Endormons-nous éternellement jusqu'à demain. Supprimons le temps. La vie réelle pèse trop lourd. Refusons-la.
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 Refusons-la. Remplaçons l'argile par la boue.
Remplaçons l'argile par la boue. La forme par l'informe. La parole par le vent. Les mots par l'eau salée. Et les douleurs par la buée sur les fenêtres, comme à une auberge dans laquelle on vient se réchauffer le soir d'un grand voyage. Tu les entends. C'est eux. Je crois qu'ils rient, qu'ils soufflent. Ils ont désintégré la terre et l'eau, n'ont gardé que quelques mots. Ils ont tout laissé pour la fin du monde, n'ont emporté que leur rire, leur souffle. Écoute-les.
Il est en prod là.
Ils n'entendent pas le monde. Ils discutent de la réalité, se demandent s'ils décident d'y croire ou d'y participer. Mais je crois qu'ils ne le voudront pas. Eux aussi ont voulu s'évader, eux aussi ont voulu s'échapper. Ils rient encore, toujours. Où ils sont ? Qu'est-ce qu'ils font ?
Endormons-nous éternellement jusqu'à demain. Supprimons le temps. La vie réelle pèse trop lourd. Refusons-la.
Et lorsqu'il faudra se réveiller, revenir dans la réalité, l'étreindre, demander pardon pour m'être nourri de mensonges.
Je le ferai.
Je le ferai.
Mais je préférerais ne pas.
Bah du coup voilà, je l'ai écrit spécialement pour la revue.
Yep.
Et, comme on a dit tout à l'heure, c'est via un QR code dans une des pages, enfin dans mes pages, qu'on peut avoir le lien et l'écouter.
Alors et, ça c'est magique quand même.
Ah oui, ça c'est quand même, il n'y a pas que du mal dans l'informatique par contre.
Bah ouais, c'est pas mal, c'est sûr. Et puis ça connecte les deux quoi, c'est chouette. Et,
bah oui.
Et en fait, c'est un morceau qui est assez, il est assez long, je crois, il fait 6 minutes, un truc comme ça. Donc voilà, puis c'est vraiment une, c'est pensé plutôt comme un, comment dire, comme un récit. Il y a un texte, donc voilà, il y a cette voix parlée, qui est la mienne, et qui est donc le texte que j'ai écrit. Et vraiment, l'idée de ce morceau, c'était aussi de représenter en son la... pardon, excuse-moi.
Non, mais allez-y.
C'était de représenter cet espace dont on a parlé, en fait. On a parlé de ça au début.
Ouais.
Voilà, et c'est vraiment la résidence. C'était pendant la résidence. J'ai fait des enregistrements, des moments de vie avec mon téléphone et voilà, que j'ai intégré. Et l'idée, c'était de vraiment essayer de retranscrire l'impression de ce refuge, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui est l'espace d'expression Underpressure et le collectif. Et ce refuge du monde avec en questionnant en fait cette idée là de refuge, de à quel point se réfugier, à quel point s'engager au contraire.
Ouais.
Et puis bon, évidemment, tout est vrai, tout est faux, donc c'est une sorte de faux manifeste de justement, je retourne la chose et j'en fais un manifeste de la passivité et du refuge et de ne rien faire et de rêver simplement, parce que c'est aussi ça l'expérience que j'ai eue moi pendant cette
expérience.
Et l'expérience, c'est que c'était vraiment quelque chose dont on avait besoin et qui c'était ça quoi, c'est le refuge, c'est le moment où on se réunit et où on rêve ensemble. Et donc voilà, j'ai essayé de le retranscrire en musique quoi, d'en faire une expérience. Donc ça s'écoute au casque et en fermant les yeux ou en lisant le texte dans la revue. Et voilà.
Bah, puisque vous abordez la revue, on va peut-être venir à l'objet en lui-même, puisqu'il existe. Comment vous l'avez élaboré ou pensé, cet objet livre ?
Alors, comment on l'a pensé ? En fait, on a demandé aux artistes, à cette résidence, de nous produire, ou pendant, après ou avant la résidence, des pages à hauteur de 4 pages chacun, soit deux planches, chacun, en leur donnant carte blanche. Donc, couleur possible, avec évidemment des paramètres pour nous faciliter l'impression, étant donné que c'est nous qui avons fait l'imposition. Mais on leur a donné carte blanche, donc certains nous en ont envoyé une, certains deux, certains trois pages. Et puis en fait, on n'a pas fait de grille, on appelle ça une grille, de mise en page pour lisser la revue. On a laissé vraiment chaque artiste complètement libre. Et nous, on a juste inséré au début de la revue l'édito qui a été écrit par Sandre Nourisson, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est la rédactrice en chef, si tu peux dire, de la revue Underpressure. Et un édito de fin aussi.
Édito qui représente assez bien ce dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, sur toutes les questions des revendications. Et tout.
Sur la colère aussi, ouais, qu'on peut avoir.
Donc le gros du travail, ça a été quand même de penser à de la com, en fait, à la communication de notre revue.
Ouais.
Donc à savoir un logo, une typographie, une couleur emblématique. En fait, à réfléchir à quand même des moyens graphiques, visuels, d'identifier la revue et le collectif Underpressure. Sans que ça soit donc... parce que c'est la difficulté aussi de la revue, c'est qu'il s'agit d'événements multi-pluridisciplinaires, également d'un format papier, donc il fallait que les images, les illustrations, la typo ne soient pas représentatives d'un seul de ces paramètres, mais qu'ils englobent la totalité de ces arts.
Est-ce qu'il y avait des revues qui étaient un peu des sources d'inspiration, un peu des modèles, si je puis me permettre ?
Alors, avec Eugénie, on a publié dans une revue il y a un an qui s'appelle Miam Magazine.
Mm-hmm.
On a publié pour eux des pages, en fait, des productions qu'on avait faites au Mexique.
Mm-hmm.
Et eux, ils avaient ce côté où, justement, visuellement, il n'y a pas de grille, où, en fait, ils ont laissé carte blanche aux artistes sur la mise en page. Donc, ça, on a gardé cette idée-là. Après, je pense que c'est assez commun, en fait, à certaines revues qui veulent mélanger les arts.
Ouais.
Il y a aussi des revues comme la revue Lagon, moi je sais qu'il y a une grosse source d'inspiration, ou la revue Rita aussi, j'avais pas mal publié avec eux. Il y a plein de gens qui se mélangent, mais pour le coup il y a plein de générations. C'est pas juste des jeunes qui sont dedans, c'était des auteurs de BD qui embarquaient des jeunes avec eux. Et puis après pour l'imposition, je sais pas s'il y a des connaîtrices de comment on fait un livre, mais du coup on fait d'abord une imposition.
Oui. Il se trouve que fut un temps, j'ai baigné également là-dedans.
Et en fait, je pense comme beaucoup, on s'entoure de livres, de magazines, de
tout ce qu'on aime,
catalogues d'expositions, des choses qu'on aime, qui nous plaisent, et puis on regarde, on compare, on essaie les typographies, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Après voilà, c'est pas notre métier en fait, donc nous on aimerait énormément pouvoir que quelqu'un s'insère dans le collectif et nous aide avec cet aspect-là des choses. Je lance un appel d'infos. mais on a fait un peu... on s'est inspiré des choses qui nous entouraient aussi beaucoup.
Mmh. Alors, vous maîtrisez plusieurs arts, donc on a dit, il y a de la bande dessinée, etc. Et notamment en regardant votre compte Instagram, votre fil Instagram, parce que on le dit aux auditrices, aux auditeurs, si vous voulez en savoir plus également et peut-être découvrir l'équipe physiquement de Under Pressure, vous pouvez la découvrir sur Instagram. Votre compte est toujours actif, j'imagine, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Et donc, on voit pas mal de choses. Moi, un truc qui m'a interpellé, qui me fait bien plaisir, c'est la sérigraphie. Moi, j'adore le travail de sérigraphie. Et comment... Et ça occupe une place, comment, assez importante dans votre revue?
Pas directement, mais en fait, on s'est mis en partenariat avec un atelier.
Ouais. Sur Becherel ou à Paris?
À Paris. Ça s'appelle l'atelier intrinsèque.
Mmh.
Et qui nous... Enfin, avec lequel on produit, justement... des t-shirts, on a fait aussi des affiches, des bagues, en fait les techniques d'impression c'est quelque chose qui nous plaît vraiment aussi dans l'idée qu'on peut contrôler et qu'on n'est pas juste dépendant d'un imprimeur et
parce que enfin il faut quand même un peu de matériel, faut du châssis, faut quand même mal de choses.
Après c'est des techniques qu'on avait appréhendées l'une et l'autre à Estienne aussi, donc on n'est pas complètement paumé quoi.
Oui c'est ça.
Imprimeur en sérigraphie, on sait qu'il a besoin de typons. Voilà, on sait un peu quelles questions lui poser. Mais il y a des choses qu'on a faites nous-mêmes dans un autre atelier de sérigraphie. Et puis, pour le Ulule, parce que nous avons financé, en fait, avec un compte Ulule, l'impression de ce premier numéro.
C'est un système de précommande et du coup, on a proposé autre chose que la revue dedans.
Ouais, on a proposé des contreparties et notamment donc des affiches en sérigraphie. Que nous on a imprimé nous-mêmes et puis après donc il y a le partenariat avec Intrinsèque.
On a mis aussi de la risographie, de la lithographie dedans, de la gravure en eau-forte. C'est une technique qui nous plaise, enfin on aime ce côté travailler avec la matière et imprimer nous-mêmes.
Ce qui est chouette avec les techniques d'impression, c'est qu'il y a régulièrement des accidents qui peuvent mener à des choses assez géniales, je trouve. Il y a quand même des imprévus, même si comme tu dis Eugénie, on est dans le contrôle quand même. En fait, on peut jamais être totalement dans le contrôle à moins d'être vraiment professionnel, ce qui n'est pas notre cas.
Non, on tâtonne, on expérimente.
Puis on aime le lâcher prise aussi.
Ouais. Voilà. Et du coup, c'est aussi une manière d'accepter, je crois, la surprise. Ouais.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc dans votre revue, on a, on va dire, un mariage ou un heureux mélange entre différentes techniques d'impression, parfois plus anciennes comme la sérigraphie, jusque le code pour
le QR code. Roger.
Code. Là, ça va. Par contre, vous pouvez rire, vous verrez quand vous serez vieux comme moi aussi, Erwan. Et le QR code, donc on a véritablement un mariage de toutes les différentes, de nombreuses différentes techniques de support d'information en fait.
Ouais, de toute façon. tous les supports sont bons. C'est
ce qu'on en fait après qui compte.
Oui, exactement.
Alors, vous avez parlé de financement, vous avez parlé de Ulule, mais vous avez tenté, on va dire, de démarcher un peu auprès, on va dire, du monde officiel pour avoir justement un soutien financier.
En fait, pour avoir un soutien financier, la plupart du temps, il faut avoir déjà une première édition. Donc, la première édition, on l'a auto-édité, c'est passé. Et puis là, sur les prochains, on va essayer effectivement de se diriger plutôt vers des partenaires pour avoir des subventions. Ouais.
C'était aussi un peu un moyen de se garantir, en tout cas au début, en commençant, c'était important de garantir notre ligne éditoriale ou qu'on était vraiment qu'on soit under pressure, quoi, justement, et pas, qu'on nous impose pas une manière de faire.
Puis même en allant chercher des subventions, notre idée c'est de rester indépendant, de garder cette liberté.
Bon, alors ce qu'il y a de bien maintenant, c'est que vous êtes sûr de garder votre liberté. Des subventions, il n'y en a plus. Nous, au Canal B, c'est pareil. Donc, mis à part le financement privé ou la prostitution, je ne vois pas ce qui nous reste, nous, en tant qu'association, pour continuer à survivre. Mais effectivement, il faut mieux être indépendant. Et ça, c'est bien avec Ulule. D'autant qu'en plus, alors moi, je voudrais revenir aussi un petit peu sur le fond, sur le rédactionnel. Il y a aussi quand même on va dire, un support d'écriture qui est quand même, pour le coup, très très ancien. On peut le faire remonter aux Égyptiens, aux Grecs, ou encore, c'est la poésie. On trouve des vrais morceaux de poésie dans votre revue.
Ouais, bah ça, du coup, c'est tout le travail de Ambre qui a écrit avec beaucoup d'urgence et qui a trouvé les mots justement pour définir tout ce qui se joue en nous.
Ouais. Pour présenter peut-être un peu Ambre qui n'est pas avec nous, elle était avec nous à l'école Estienne. Elle a aussi une pratique de dessinatrice. Et aujourd'hui, elle est en études de lettres. Donc, c'est vraiment un de ses médiums, on va dire, l'écriture. Donc, elle est très forte avec ça. Elle vous incite à lire l'édito, qui, je pense, dit beaucoup et résume de manière assez juste tout ce qu'on disait sur notre engagement politique, sur
nos rêves et nos espoirs.
Voilà.
C'est vrai que voilà, la poésie, c'est vrai que c'est très ancien, que ça a toujours existé et que c'est aussi un art qui s'est toujours mêlé. Donc c'est ça aussi du sens qu'il soit là. Il s'est toujours mêlé avec les autres arts.
Oui.
Enfin, je pense surtout à la musique, évidemment, puisqu'il est tout art. Hein. Mais avec les arts graphiques.
Ouais, le calligramme.
Le calligramme, exactement. Donc c'est sûr que ça a énormément de sens, que ça a une vraie place. Puisque c'est aussi, il y a du bruit, pardon. C'est aussi un vrai lieu de rencontre, la poésie, je pense.
En même temps, c'est pas évident, c'est un peu casse-gueule aussi, d'écrire un poème, etc., de le publier, on se demande comment il va être reçu, etc. C'est pas évident, c'est courageux.
Ouais, c'est vrai.
Mais on se demande encore comment la revue va être reçue, elle n'en est qu'à son début. Ouais, ça fait une semaine qu'on a reçu les impressions et on est en train de commencer à la diffuser.
Et justement, alors la diffusion, comment vous l'envisagez ?
À partir d'événements, en fait. Ouais. Notre idée, c'est que la revue se sépare jamais ou presque.
Recréer la rencontre.
Ouais. En fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'accessibilité, je crois, de ce médium qui est le papier. Et dans la transmission, il y a une rencontre, il y a un échange avec les personnes qui nous ont soutenues sur Ulule ou des personnes qu'on ne connaît pas et qui seront amenées à découvrir le projet. En fait. On va organiser un événement de lancement. Je vous incite à nous suivre sur Instagram pour en savoir plus.
Ouais. Ça arrive très vite.
Oui.
Et oui, c'est. Et puis de toute façon, je pense. Enfin, voilà, je sais pas. Mais le livre, c'est aussi. Ça peut être une expérience solitaire, individuelle, mais c'est aussi autour duquel on se réunit. Ce qu'on veut faire, c'est ça aussi, c'est réunir autour de cet objet-là. Et c'est comme ça qu'on pense la diffusion et la diffusion du message aussi, quoi. C'est-à-dire que, on n'oublie pas les arts vivants. Et donc, on veut autant faire se rencontrer les gens en vrai que dans le graphier, quoi.
Du coup, vous allez prendre la route, aller voir des festivals de bande dessinée ou autre?
Ouais, c'est ce qu'on aimerait. Du coup, déjà, on l'a présenté à la Fête du Livre de Bécherel. Il y a l'événement qu'on va créer et maintenant, on sait dans quel lieu on a envie d'aller.
Mmh. Et on la dépose dans des librairies aussi, beaucoup.
C'est la première fois que vous le montriez au public pour la Fête du Livre de Bécherel?
Oui, ouais, exactement.
Alors ça s'est passé comment ? C'est quoi la réaction du public à Bécherel, du coup ?
Et ben, c'est très joyeux.
Ouais.
Adoré. On adore pour l'instant.
On en a plus.
Ah bah c'est bien.
Ça fait réagir les gens.
Les gens s'intéressent.
Ouais, voilà. Puis il est intriguant, l'objet en lui-même.
Oui, il est tout jaune.
C'est ça. C'est sûr que les gens, sont, voilà, ils sont intrigués, ils veulent venir voir et ils aiment le projet.
Et ça donne aussi envie aux gens de créer. De se créer des espaces ou de rejoindre cet espace.
Oui, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah oui, comment on fait pour rentrer dans le collectif ? Est-ce que je pourrais faire des choses ?»
Ouais, même tes enfants.
Ouais.
C'est génial.
Bah, c'est chouette.
Et j'ai vu d'ailleurs sur Instagram comment des gens que vous connaissez aussi, Erwan, qui vous avez comment pourrait-on dire, des parrains, si on prend un terme mafieux. Je vois souvent le petit icône qui représente Monsieur Jörg Bernstein ou alors Pepito Ferré qui vous like à chaque fois. Ça, ce sont des grands anciens, surtout Pepito, on ne peut pas le tromper, on ne va pas dire que c'est plus à perdre de l'année, M. Pepito, qu'on connaît bien par ailleurs.
Bah, c'est des gens avec qui on est en lien et qui suivent et soutiennent le projet, et c'est chouette.
Bah, du coup, on verra peut-être débouler en Bretagne.
Peut-être pour le festival qui débute, à Saint-Malo, peut-être.
Bah, c'est ce qu'on aimerait, oui. C'est
parti des projets, mais c'est parti de la longue liste de tout ce qu'on voudrait faire.
Ouais.
Ah bah, ça serait cool, parce qu'on pourrait se rencontrer en vrai.
Bah ouais.
Bah, carrément.
Alors, pour parler, il faut parler des choses qui fâchent quand même. Ça coûte combien, Under Pressure ?
Aïe, aïe, aïe.
L'objet, il coûte 15 euros.
Ok.
Voilà.
Et après, il y a des stickers qu'on vend 2 euros pièce, 5 euros les 3. Mmh. Oui, on a fait un t-shirt aussi à 15 euros. Ouais.
Mais les t-shirts sont partis, là. Il n'y a plus de... Enfin, c'est des contreparties, en fait.
Mais pendant l'événement, les gens pourront venir avec leur propre t-shirt et... On en imprimera sur place.
Ah oui, excellent. Vous amenez un châssis et vous imprimez le t-shirt sur place.
Ouais.
Ah, excellent.
Ah, c'est cool.
Ça va être
J'ai vu à Paris un monsieur qui faisait ça sur son vélo, carrément. Il avait installé une carriole avec un petit système de châssis. Et on pouvait, pouf, on se pointe avec son t-shirt, ou alors il vous en vendait. Et le t-shirt vierge, si vous voulez, vous aviez un ou deux motifs de châssis, puis terminé. Et et les gens partaient tout contents avec leur t-shirt fraîchement imprimé, c'est super.
C'est une bonne idée, ça.
En vélo, une petite carriole. Ah, je ne sais plus comment il s'appelait, ce monsieur-là. Et c'était sur Paris, c'était rigolo. Et puis, il y avait pas mal de gens qui venaient, comme ça, intéressés. Parfois, des gens enlevaient carrément leur t-shirt, et puis pouf. C'était la belle saison, pas au mois de novembre. Et comment dirais-je. Et des gens repartaient. Enfin, c'était des t-shirts avec un discours politique. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça marchait aussi. Un discours revendicatif qui donnait envie d'être porté.
Ouais.
On pourrait peut-être s'écouter un troisième morceau de votre programmation. Qu'avez-vous dans votre besace ?
Alors, on a choisi un morceau qui s'appelle Pobredetti, d'un groupe emblématique mexicain qui s'appelle Tijuana No.
Ok, et ben c'est reparti alors. On va reprendre une tequila du coup.
Non, pas moi. J'aime pas la tequila, ça me rend malade.
Allez, on s'écoute ça. Thank you.
C'est une horreur la tequila. À chaque fois je vomis, j'ai pourtant le dire, je le répète à chaque fois, mais comme j'ai aucune volonté, j'en bois. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a le Mexique, donc bah, présent à travers la musique que l'on vient d'entendre aussi, et puis présent à travers nombreux dessins où on voit comment des luchadores.
Exactement. Ouais. Là, on garde notre rencontre au cœur et du coup on a voulu prendre comme la mascotte. Et puis ça illustre bien aussi la lutte, le combat.
Alors qu'est-ce qui vous fascine dans le monde, dans ce monde des luchadores là ? Est-ce que c'est justement le côté lutte contre l'injustice ? Parce que normalement il y a ça aussi.
Bah, en fait il y a un paradoxe, on s'en est rendu compte en étant au Mexique, que le catch finalement c'est un spectacle, c'est un show, il n'y a rien de réel. En fait. Mm-hmm. Des scènes qui sont plutôt écrites, donc c'est un combat qui est bah, déjà c'est un sport populaire en fait aussi, qui historiquement est adressé à la classe ouvrière mexicaine. Qui est très accessible et que les places sont vraiment pas chères. Et puis, ouais, c'était cette image de lutte. Et nous, on aime bien détourner justement cette figure un peu très masculine, virile, qui prône bah, des valeurs en fait très patriarcales, et la détourner. Et donc, par exemple, sur la quatrième couverture de notre revue, on a dessiné deux catcheurs qui sont pratiquement en train de s'embrasser.
Est-ce qu'il y a des lutteuses femmes au Mexique ?
Des catcheuses femmes,
ouais. Ouais.
Mais c'est pareil, c'est toujours très stéréotypé.
C'est très stéréotypé. Ouais. Elles se battent avec leurs fesses, elles sont en styling. Ouais. Après, c'est très drôle, mais.
Ouais, c'est un vrai spectacle.
Ouais, ça faisait une moins bonne mascotte, là.
Non, je crois que vous avez intéressé mon vieil ami Arwan, qui a l'air d'être. Je crois qu'il va aller sur Internet regarder les combats de luchador féminin, sans doute. Je vois que apparemment ça le trouble.
Oh, mon Dieu.
C'est vrai que c'est aussi l'aspect second degré, quoi. Le combat est complètement bariolé de couleurs, avec des masques un peu
qui brillent.
Il y a un petit côté kitsch aussi.
Voilà, donc on prend du recul aussi sur la vision un peu frontale du combat. Et
Ouais, ça m'évoque, il y avait eu une aventure éditoriale Lucha Libre, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Roger.
Si, moi justement, je me souviens. Ouais,
avec beaucoup de personnages qui étaient masqués et catcheurs. C'était les ancêtres du label 619, quelque part.
Ouais, c'était paru chez les Humano, par contre. Ça s'appelait Lucha Libre, c'était une revue de bande dessinée. Sous
avec le professeur Furia.
Ouais, avec mon préféré, mais c'était pas forcément le plus fréquentable, on va dire, professeur Furia. Et comment dirais-je et qui mettait en avant justement l'image du lutteur, quoi, du lutteur mexicain. Alors là, quelle va être la fréquence de parution de votre revue ? Vous avez envisagé quoi ? Comment ?
On imagine publier une revue comme ce premier numéro qui regrouperait beaucoup de gens une fois par an.
Ok.
Pour chacun de ces numéros, avoir une résidence en amont. Les gens pourraient se retrouver et créer, et un gros événement de lancement. Mais on voudrait aussi faire porter par Runner Pressure des plus petites éditions, et aussi revenir aux fanzines, à des éditions qui sont plus faciles à mettre en place et avec beaucoup plus de régularité.
Et avec un prix plus accessible aussi.
Ouais.
Oula.
Parce qu'on aime beaucoup la question de, dans notre monde actuel, en fait, dans cette guerre culturelle, finalement, quelle place prend l'art dans les combats aussi sociétaux ?
Bah, ce qui est tordu, j'avais déjà eu ce souci-là, mais il y a bien longtemps. si vous vendez pas votre objet, vous n'êtes pas pris au sérieux. C'est paradoxal, mais c'est comme ça.
Ouais. Et oui, le prix c'est statutaire.
Ouais.
Heureusement, on voudrait pas, mais c'est aussi. Et là, c'est pas bon. Il y a vraiment quand même, on veut pas non plus rentrer dans ce jeu-là complètement.
Non, mais c'est vrai. Par contre, si vous le vendez pas, et puis si vous le vendez à perte, de toute façon, vous allez vous épuiser, puisque chercher de la thune comme ça sans arrêt, c'est un peu pénible, et puis ça prend sur le temps de création, donc c'est un peu dommage. Mais en même temps, si vous le et puis ça vous donne plus de liberté de le vendre, et ça donne de la valeur à la chose. Les gens vont vous respecter parce que s'ils le vendent 15 boules, c'est que ça vaut 15 boules. À la limite, rien ne vaut rien dans l'absolu, mais je pense que vous n'avez pas tort d'avoir choisi un prix qui, même s'il peut paraître un petit peu, comment dirais-je, élevé, témoigne aussi des efforts et du soin que vous avez apporté à votre vue, peut-être aussi.
Oui, et puis pour nous, l'art, c'est pas l'art gratuit totalement. C'est des métiers derrière, du coup, c'est important que ça soit un prix.
Ouais. Ouais, ouais. La gratuité, ça a été le problème. Vous savez, quand on a commencé à avoir des journaux gratuits dans le métro, etc., à un moment donné, il y avait même 3 titres. Et maintenant, il n'y en a plus un seul. Ils se sont tous cassés la gueule parce qu'effectivement, courir après la pub, c'est n'importe quoi. Et puis, ça ne vous garantit certainement pas l'indépendance que d'être couvert de publicité. Et ils ont tous fini par crever parce que tout travail mérite salaire. Enfin, je vais dire, tout travail mérite salaire. Toute tâche, il faut qu'il y ait une contrepartie. Enfin, c'est mon propos en tout cas.
Ouais. C'est vrai. Nous, on ne s'est pas tant posé la question d'être pris au sérieux. Je pense que de toute façon, la question, c'était aussi de pas d'être pris au sérieux, pas que le livre soit pris au sérieux, mais que le travail des artistes, il existe et justement, on a vachement l'habitude dans certains milieux de qu'on nous dise on est d'être payé en visibilité ou alors d'être payé en
ouais.
Donc c'est sûr que faut aussi se défendre vis-à-vis de ça.
Après, pour le moment, on n'a pas encore le moyen de rémunérer les artistes.
Et là, non, là c'est le minimum.
Bah, et nous, on se rémunère pas.
Ouais.
Il n'est pas dans une. En fait, ce collectif, c'est surtout du désir avant tout. Et donc, pour l'instant, on n'a pas les moyens de mettre un système de rémunération en place, que ce soit nous pour les autres.
Ouais. Pour être tout à fait transparent, on est à zéro. Quoi.
Voilà, oui, oui, c'est un peu, normal. C'est le quotidien du choix que vous avez fait. Avant de devenir riche, j'ai bien peur qu'il va falloir un petit peu, mais ça tombe bien, comme vous a laissé que des cailloux, que le caillou s'accommode très bien avec pas mal de sauce. Alors, je vois sur un des, comment dirais-je, genre moi j'y connais rien, j'ai vu sur une des images de votre flux Instagram, il y a tout plein de lumières bizarres qui s'allument quand vous jouez de la musique. Vous pouvez nous expliquer ça un petit peu, c'est quoi ?
Ah oui. Oui, c'est moi, c'est une des vidéos que j'ai faites, c'est une improvisation que je fais sur l'électronique et le piano, et c'est donc l'image en dessous, c'est un logiciel qui s'appelle Touch Designer, et alors là, on revient complètement dans l'environnement numérique, mais c'est ce qu'on appelle de l'audio réactif.
C'est-à-dire ?
L'audio réactif. Et alors, pour être moi, j'aime beaucoup, de toute façon, je suis là pour ça, dans cette revue, c'est croiser les médias, croiser les arts et tout. Et donc, j'aime bien l'idée de prendre l'image, la couleur, comme un instrument faisant part de ma musique. Et donc, j'utilise ce logiciel-là pour faire ça, comme de la polyphonie, mais avec l'image autant. Et donc, c'est un logiciel dans lequel je mets ma source sonore et je lui... C'est un peu complexe, c'est un peu de code, un peu de développement, mais je lui donne des consignes, disons, de réagir à tel ou tel paramètre du son et d'y réagir de telle ou telle manière. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau dans la création, qu'on appelle génératif, mais alors il ne faut pas confondre du tout avec le génératif de l'intelligence artificielle, puisque... Là, la génération, elle est vraiment faite par ce qu'on décide, les ordres qu'on donne, et il n'y a pas d'intelligence artificielle du tout. Mais voilà, c'est un peu... je réfléchis à qu'est-ce que ça donne en lumière et à la vue, un son. Et donc voilà, c'est ça l'idée.
Ouais, écoutez, on a compris, donc...
Et même nous, et pourtant, on n'est pas toujours très frais.
Zoom, croyez-moi.
Très bien.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver votre revue avec tout ça ? Faudrait pas que ça soit la question qui fâche. Où est-ce qu'on peut trouver votre revue ? Parce que là, concrètement, vous êtes passé sur Plume et Pinceau. Vous savez que j'ai réussi à faire monter des ventes de Ratige Poche, une excellente bande dessinée, jusqu'à 10 exemplaires. J'ai réussi à en faire vendre 10 exemplaires à la librairie dont nous tairons le nom. Peut-être atteindrons-nous ce chiffre mirifique après votre passage.
On en rêve.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver votre revue si on habite à Rennes et qu'on est une ou un fidèle auditrice, auditeur de Plume et Pinceau ?
Eh bien, il faut soit se déplacer et venir à notre événement qui aura lieu au printemps, et donc à suivre sur Instagram, ou bien nous contacter également sur les réseaux. Il y a aussi notre adresse mail qui est disponible via Instagram, et auquel cas, nous, on fait des remises en temps propre ou bien on organise des envois par la poste.
Voilà.
Okay. On cherche en ce moment à déposer dans des librairies, mais c'est pas encore fait. Du coup, notre idée là, c'est d'aller démarcher des lieux.
Ouais. En fait, on est encore, on vient de recevoir la revue. Comme on l'a dit, elle est vraiment toute chaude dans nos mains, quoi.
Donc on est encore en train de la diffuser, étant donné qu'on habite tous en région parisienne. Pour l'instant, c'est vachement axé sur la région parisienne, mais notre objectif étant de se déployer évidemment.
La France et puis le monde.
Mais par contre, attention, il faut se dépêcher. Il y en a de moins en moins.
Il y a combien de... Vous avez tiré à combien d'exemplaires ?
On en a tiré 300.
Ok.
On a eu beaucoup de précommandes, à vrai dire, et il nous en reste assez peu. Je ne sais pas combien il nous en reste. Moi,
en fait, la moitié est partie sur Ulule. Ouais. Et sur Becherel, on a encore vendu pas mal.
Il nous en reste une soixantaine à peu près.
Ah, c'est bien, le plus gros est fait pour le premier numéro alors.
C'est ça, ouais, mais du coup, on aimerait en prendre plus sur les prochains numéros.
Ouais. Plus.
Exactement.
Ok.
Au moins 10 de plus pour les auditeurs de
Ah, voilà, vous nous faites plaisir. Est-ce que on a fait le tour ? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé dire dont on n'a absolument pas parlé ?
Moi, j'aimerais bien présenter simplement la cinquième personne qui est dans le noyau. Voilà. Yep. Elle s'appelle Nina Bureau, qui n'est pas là non plus, de pareil que Ambre. Mais qui, elle, gère tout le côté collectif, en fait, du collectif. C'est-à-dire que quand on se réunit, par exemple, avec une vingtaine de personnes dans une maison, bien qu'elle soit grande, ça nécessite une certaine logistique et une organisation dans le respect des autres, dans cette collectivité. Mmh. Et elle nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup avec tout ça. Elle est vraiment à l'initiative parce qu'elle a une expérience dans des... Elle a pas mal d'expérience dans des lieux autogérés en France.
Ouais. Okay.
Elle met au service son expérience pour Under Pressure.
Ah ben, voilà. Impeccable. C'est cool. Eh ben, salutations à elle.
Ouais. Et alors, on retrouvera sur le magnifique blog animé par Monsieur comment Plume. comment dirais-je le tous les contacts comment de la revue Under Pressure. Vous les avez, Erwan, ou il faudra qu'on les redemande hors antenne.
On peut les redemander hors antenne, mais on verra ça hors antenne.
Ok. Et donc, vous retrouverez en tout cas, chers auditrices et auditeurs, tous les contacts nécessaires pour vous enquérir de cette toute nouvelle revue Under Pressure.
Ouais. Moi, je pense qu'on est. On voulait vous remercier pour nous avoir donné cet espace de parole et pour avoir pu expliquer tout ça en détail. C'est assez
C'est gentil à vous, mais c'est gentil surtout d'avoir accepté notre demande.
De nous consacrer du temps. Vous savez, la jeunesse passe vite. On n'a rien vu passer, nous, avec mon ami Erwan. Rien. On s'est retrouvé avec la barbe blanche du jour au lendemain. Incroyable.
Faut arrêter avec ce truc de vieux, là.
Mais bon, attendez, c'est pas la peine de leur raconter n'importe quoi. Ils sont pas idiots non plus.
On vous appelle depuis notre EHPAD, en fait.
D'où on s'est un peu échappé. On est au Café des Amis à côté des Boules. Il y a un nouveau terrain de boules qui est pas mal du tout. Et si on a pu effectivement, fort modestement, participer à la diffusion de votre revue, nous en sommes ravis.
Longue vie Under Pressure.
Longue vie Under Pressure.
Longue vie Under Pressure. Un petit dernier morceau peut-être ?
Oui.
Ouais. On pourrait écouter Under Pressure justement.
Oui, parce qu'on ne l'a pas dit au début,
ça vient de
vous l'aviez remarqué, et ça, la référence est là. C'est une référence à Queen.
Écoutez, je l'avais mis de côté au cas où effectivement je pouvais la passer. Ça, très, très bien pour conclure.
Da 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 you're coming up with love, but it's so slashed and torn.
Eh ben merci encore et puis à bientôt.
Ouais.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.